être l'un des 8 lauréats récompensés par le jury de Radio France. Plus d'informations sur nouveausons.radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
15h04 sur France Inter. Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet.
Alain Finkielkraut vient d'être élu à l'Académie française. À y bien réfléchir, je crois qu'en fait, il avait raison. La civilisation européenne est bien en danger. Et la civilisation française, plus particulièrement, plus encore. Quand on en vient à élire Alain Finkielkraut à l'Académie française, eh bien oui, là, notre culture, notre civilisation est vraiment en danger.
Cher Manuel et chers camarades, le 10 avril, à l'occasion d'un discours où tu faisais l'éloge des entreprises, tu as repris, comme Nicolas Sarkozy, le concept réactionnaire, donc de droite, de la valeur travail qu'il faudrait réhabiliter. Cher Manuel, le travail n'est pas une valeur. Le travail a un prix. Il a donc une valeur marchande. Il s'échange contre de l'argent. Le travail n'est qu'un moyen. C'est un moyen pour gagner sa vie, pour s'intégrer à une communauté, pour être reconnu ou pour se réaliser dans la vie. Les valeurs morales comme la justice ou la vérité, elles, n'ont pas de prix. Les valeurs républicaines comme l'égalité, que tu n'as pas citées dans ton discours de politique générale, ou encore la liberté, la fraternité et la laïcité, ne s'achètent pas non plus. Laisse la valeur travail à la droite et contente-toi d'agir pour que les Français en âge de travailler aient accès à des vrais métiers, correctement payés. À l'occasion, écoute l'émission de Daniel Mermet du 10 avril sur les sales petits boulots qui déshonorent l'idée même de travail. Amitié socialiste, Jean de Marseille.
Bonjour, François, élu du personnel CGT-EDF. Il est 1h10 du matin, nous sommes sur le site de Vénissieux, où du personnel se bat au quotidien et aujourd'hui se bat particulièrement pour une dégradation des conditions de travail. On ne veut pas être le nouveau France Télécom de l'entreprise. Et aujourd'hui, des revendications du personnel pour le respect des missions de service public et notamment pour l'abolition des sanctions, notamment du personnel qui a assisté un de leurs collègues qui est décédé au cours des interventions lors de la tempête. Et les collègues de cet agent décédé sont aujourd'hui sanctionnés. Voilà, l'ensemble du personnel se bat. C'est un vrai combat et aujourd'hui, tout le monde veut défendre le service public. Et il est incroyable que ni les pouvoirs publics, ni les directions aujourd'hui soient là pour défendre cette mission simple qui est d'apporter l'électricité pour tous et de respecter ceux qui le permettent au quotidien.
Petit boulot, petit salaire, petite vie. Je faisais pas jusqu'à présent un petit boulot, je faisais un boulot en sous-traitance pour l'énergie. Et j'ai travaillé pendant 3 ans. On subissait du harcèlement pour la productivité, l'hyper-productivité. Hein. Même 95,5%, ça suffisait pas apparemment. Et j'ai envoyé un courrier à ma direction en décembre signalant ces agissements, que j'en avais marre. Suite à quoi, j'ai eu un petit accident privé, je me suis pété le bras. Et en janvier, j'ai reçu un courrier signifiant mon licenciement. Je me suis inscrit au Pôle emploi. Et là, je viens de recevoir un papier du Pôle emploi me signifiant que toutes mes années de service m'ont permis de jouir de 677 jours calendaires d'indemnité à 31 euros, soit à peu près 600 balles par mois. 600 balles par mois. J'ai un loyer de 400. Bon, effectivement, je pourrais avoir des indemnités de la CAF. Mais je vais faire comment pour manger? Je vais faire comment? C'est ça, travailler, faire des petits boulots, ou des gros. Beaucoup bosser, faire des heures supplémentaires, jamais payer, et se voir se faire cracher à la gueule.
Amis de Lille et du Nord, bonjour. Ce soir, lundi 14 avril, réunion des amis d'Abbas, si j'y suis, au café Repère L'Imaginaire, dans le Vieux Lille. Le thème, quels efforts pouvons-nous faire, quels sacrifices pouvons-nous encore faire pour aider Hollande et Valls à renforcer le grand capital. Venez tous avec vos idées d'offrande et de sacrifice. À ce soir.
Oui, bonjour Daniel. C'est par rapport à l'émission sur le Rwanda. J'ai été, comme catholique, profondément choqué par l'implication possible de l'Église catholique dans le drame du Rwanda. Est-ce que c'était des actes isolés ou bien une participation de l'institution? Dans la mesure où il y a des chrétiens aussi bien du côté Hutu que Tutsi. Et puis moi, je suis plutôt témoin du travail de longue haleine que fait l'Église dans cette région, avec entre autres le CCF des Terres Solitaires, qui travaille pour l'instauration d'une paix durable entre les peuples dans cette région. Donc j'aimerais en savoir plus sur l'implication de l'Église. Est-ce que c'était une implication globale ou est-ce que c'était des actes isolés? Merci pour tes émissions et bonne journée à tous.
Salut à tous. Ah, j'ai vraiment la nostalgie des anciennes émissions où j'y suis été là-bas. Faut-il que les auditeurs se cotisent pour que Mermet retourne là-bas? Paul de Clamcy.
Eh ben j'y suis, là-bas, chers AMG, je suis là-bas. Vos messages me parviennent ici au Rwanda, on vient d'arriver à Kigali, et on est heureux d'être là. Ça peut paraître bizarre, mais heureux, parce qu'on retrouve des vieux amis, des vieilles connaissances d'il y a longtemps, d'il y a 19 ans, au Rwanda, et c'est bouleversant de retrouver tous ces visages, ses mémoires et ses amis. Donc voilà, on est au Rwanda et on a trouvé un truc formidable. C'est une radio qui s'appelle Urunana, qui deux fois par semaine fait un feuilleton de 15 minutes, l'histoire de personnages de la vraie vie. Un feuilleton radiophonique, je vais vous dire le principal, et qui marche formidablement bien au Rwanda, dans la région, et qui raconte la vie quotidienne à travers une fiction, ce qui ne se fait pas ou ne se fait plus du tout en radio, et qui ici a un succès fou, et qui est édifiant, les auditeurs s'identifient aux personnages, etc. On va s'intéresser à ça et on vous racontera tout ça. En attendant, pendant ce temps-là, on vous propose de retourner dans le cauchemar des années 80. Pour comprendre ce qui se passe en France actuellement, c'est quand même pas mal de retourner à ces années 80 qui, à bien des égards, ressemblent à celles d'aujourd'hui et expliquent ce qui se passe aujourd'hui. Et pour cela, on va retrouver François Cusset, qui est l'auteur de ce bouquin « Le cauchemar des années 80 », Frédéric Lordon, soi-même en chair et en os, et Serge Halimi du Monde diplomatique, pour commenter ces années et ce bouquin. Voilà le sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Dominique, je vous appelle de la vallée des Gaves dans les Hautes-Pyrénées. C'est pour vous annoncer que mercredi 16 avril à 20h30, nous avons notre café repère au bar d'Azin, 21 rue du Bourgneuf. Nous allons parler de la liaison si controversée de Luz-Cotterêts et nous parlerons aussi de l'économie locale avec l'éclairage de représentants de ATTAC de la Confédération Paysanne. Alors venez nous retrouver au bar d'Azun le mercredi 16 à 20h30 et ça sera tous les troisièmes mercredis du mois. Au revoir.
Petit boulot. Il travaille à mi-temps comme valet de pied d'un unijambiste. Salut.
Faut pas oublier convenu.
Hello, Mr. DJ.
Avec votre DJ à la sono, écoutez le show musical. Yeah!
Music Machine.
Pénétrez dans cet univers musical.
Attention, 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 c'est à vous, 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 vous pour la danse, 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 danse.
Dansez sur cette musique folle. Soyez aussi marteau que lui. Super, super, super.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from New York.
Le Wonder Boy, Bernard Tapie, le premier guignol de Canal+, la manif pour énergie, les Rita Mitsuko qui chantent c'est comme ça. Le Pen et ses dérapages. Touche pas à mon pote. La privatisation de TF1, accordée au mieux, disant culturel, et l'incontournable Vive la Crige. Avec Yves Montand, nous avons tous en nous quelque chose des années 80. Beaucoup des questions et des impasses qui nous hantent aujourd'hui ont leur origine dans le grand basculement des années 80. Ce grand basculement, pour nous, en France, c'est le tournant de la rigueur autour de 82-83. La seule politique possible. Traduction de Tina. Tina, there is no alternative. C'est qu'une dictature s'est imposée à nous depuis 25 ans. Une chouette dictature, pas du tout le genre Mirador et Colima, bien au contraire. Une dictature sympa et décomplexée qui dit faut pas se prendre la tête, faut lâcher prise. C'est comme ça, on n'a pas le choix. La dictature de l'inéluctable est désormais gravée dans le disque dur collectif grâce à l'œuvre de ces missionnaires médiatiques, ces entrepreneurs héroïques, ces politiciens réalistes, sa culture pour table basse et ses renégats 68ards. C'est cette histoire, celle des années 80, que nous allons raconter à partir du livre de François Cusset, La décennie, le cauchemar des années 80, édité à La Découverte, qui va nous servir de repère dans ce dédale. Il ne sera pas seul, avec nous aussi Serge Halimi, auteur du Grand Bond en arrière, sur le même thème, et qui raconte ce grand renoncement, histoire d'une soumission au nouvel ordre mondial, imposé par ceux-là même qui prétendaient incarner les valeurs opposées à la domination de l'économie. Disparition du politique devant l'ordre économique néolibéral, renoncement à toute contestation sociale et à tout idéal mobilisateur, triomphe d'une pédagogie de la résignation et de la culture plate, proclamation de la fin des idéologies et même de l'histoire, triomphe de l'argent roi et de l'ambition égoïste, évanouissement de l'avenir. Les bras en l'air, beaucoup se sont rendus à l'évidence. Malheur alors à tous ceux qui refusèrent d'entrer dans la collaboration. Des staliniens, des sectaires, des manichéens, ils étaient des archaïques, des munichois, des antisémites. Et pourtant, songeant que rien ne nous oblige à vivre dans le monde où nous vivons, quelques-uns résistèrent. À partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus les seuls.
La 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 Bonsoir à tous. On réunit ce soir sur le plateau d'Apostrophe en direct trois intellectuels et un chef d'entreprise. En mai 68, ils avaient 20 ans. En mai 86, ce sont des quadragénaires ou en passe de lettres. Où en sont-ils? Que disent-ils? Qu'écrivent-ils? Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. Cette publicité dit ceci. En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
Alors, je ne sais pas si on a vraiment trois intellectuels et un chef d'entreprise autour de ce micro. En tous les cas, on a au moins trois intellectuels qui sont dans l'ordre François Cusset, Frédéric Lordon et Serge Halimi. François Cusset est l'auteur de La décennie, le grand cauchemar des années 1980. C'est autour de ce livre qu'on va parler. Frédéric Lordon, bien connu des auditeurs de La Basse, si j'y suis, est un, on va dire, un économiste, voilà. Et Serge Halimi, journaliste au Monde diplomatique et aussi, paraît-il, ce journal consternant qui s'appelle Le Plan B, et qui est aussi l'auteur d'un livre sur le temps où la gauche essayait. Et ça nous intéresse parce que dans cet ouvrage, Serge Halimi s'intéresse à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire les années 80. Alors, le fautif, c'est François Cusset. On a choisi cette première archive qui se passe en 1986, donc un peu au milieu de cette décennie. Pourquoi ? Ben à cause de la formule déjà, hein, employée par Pivot. En 68, il refaisait le monde. En 86, ils refont la cuisine. Et 86, c'est aussi la parution d'un livre de Luc Ferry avec Alain Renaud sur la pensée 68. C'est le moment où, selon vous, apparaît l'idéologie de la fin des idéologies. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, expliquez-nous un peu vos intentions avec ce bouquin et pourquoi ce titre, évidemment, La décennie, le grand cauchemar. On sait ce qui va nous arriver en ouvrant le bouquin, quoi.
Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt de montrer voilà, ce qui s'est passé idéologiquement, politiquement, culturellement dans cette décennie, pas sous la forme caricaturale du cauchemar, mais comment sont passées efficacement en France des idées avec lesquelles on a à se battre aujourd'hui, qu'il s'agisse du libéralisme et du fatalisme économique, qu'il s'agisse d'un certain gauchisme culturel échevelé, mais qui ne fait de mal à personne, qu'il s'agisse effectivement d'une désaffection pour la politique, enfin de beaucoup de choses qui sont toutes apparues à ce moment-là. Alors 86, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment au cœur de la période, là. Vous aurez tous remarqué que mathématiquement, 86, c'est l'inversion de 68.
Mais bien sûr, en tous les cas, Luc Ferry l'avait remarqué.
Il l'avait remarqué. Et effectivement, La pensée 68 de Luc Ferry et Alain Renaud, l'un des livres les plus emblématiques de la décennie, et quant à lui, l'inversion parfaite du programme réel de mai 68, au point de pouvoir dire, c'est ce que disent Ferry et Renaud, que mai 68 n'a pu mener qu'à l'individualisme, au libéralisme et à la publicité. C'est avoir la mémoire un peu courte.
Serge Halimi, les années 80, un cauchemar ?
Non, pas un cauchemar dans le sens où ce qui s'est produit n'est pas le résultat d'un endormissement particulier et d'un réveil brutal, mais de la maturation de données sociales qu'on voyait apparaître dès les années 70 et qui, lorsque la gauche était au pouvoir en France, ont en quelque sorte germé. C'est là que le paradoxe est le plus grand, c'est qu'effectivement, le libéralisme a été en France particulièrement servi par la gauche, au moins autant et sinon plus que par la droite.
Frédéric Lordon, les années 80, un cauchemar ?
Alors, on peut quitter le lexique des bons et des mauvais rêves et dire qu'en tout cas, c'est la décennie des très grandes transformations, pour reprendre le titre d'un ouvrage fameux d'un économiste qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Karl Polanyi, qui écrivait en 1944. C'est une décennie au cours de laquelle le capitalisme français, et pas que lui d'ailleurs, va changer de visage. Il va changer de visage parce que vont être refaites sur des bases tout à fait neuves les grandes structures qui encadrent l'activité économique et dont on pourrait dire en simplifiant qu'elles sont au nombre de trois. La première, c'est ce qui concerne la concurrence, c'est-à-dire l'organisation des marchés de biens. La seconde, c'est attrait à la finance. Donc là, on va avoir le phénomène de la libéralisation financière à partir de 1986. Et la troisième, c'est celle qui va installer un certain modèle de politique économique en rupture avec tout ce qu'on avait connu pendant cette période qu'on avait appelée les 30 Glorieuses, modèle de politique économique alors qu'on qualifiait de keynésien. Et le grand tournant de politique économique, on va le retrouver quelques années plus tard dans la construction européenne achevée.
Alors, on va rester avec cette émission de Bernard Pivot, à laquelle participait quelqu'un qui était quand même largement en avance sur vous, et qui s'appelle Guy Hockenheim, qui est disparu depuis, mais qui, au cours de cette soirée, où Bernard Pivot recevait d'éminents intellectuels tels que Laurent Dispot, tels que Pascal Bruckner et quelques autres, Guy Hockenheim faisait montre d'un certain sens de l'histoire et du temps. Il était question du bouquin qu'il venait de sortir, qui s'intitulait « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary ». Guy Hockenheim.
Alors, Guy Hockenheim, là j'ai le choix là, dans vos, pour donner votre ton, votre colère, ex-gaucho, ex-contestataire, ex-révolté, ex-mari, toujours en divorce de mai 68, aujourd'hui membre à vie du club ouaté des renégats.
Les renégats sont tous ceux qui, tout simplement, ont écrit des livres ou ont participé médiatiquement, dans des journaux ou à la télévision, à cette forme de restauration des idées que nous avons vues depuis une dizaine d'années. C'est ça qui m'a provoqué à écrire ce livre. Je veux dire, c'est une génération dont je crois réellement que le rôle historique est aujourd'hui néfaste, qu'elle occupe beaucoup de postes de responsabilité, qu'elle est puissante, qu'elle est comme une camarilla ou une mafia, les ex-gauchistes, comme on dit, mais que son axe, sa volonté de puissance, c'est de renier ses anciennes utopies.
Alors celui, donc ce renégat, il a le nez de Glucksmann, le cigare de Julie, les lunettes rondes de Coluche, le bronzage de Lang, les cheveux longs de Bizot, la moustache de Debray, la chemise ouverte de BHL et la voix de Kouchner. Donc, quand vous dites le nez de Glucksmann, il n'y aura pas une petite pointe d'antisémitisme, hein, un petit peu ?
L'antisémitisme est une chose haïssable, tout le monde est d'accord là-dessus sur ce plateau. Vous voulez qu'on fasse un sondage sur tous les invités ? Tout le monde est d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Comme par hasard, il y a une forme de chantage à l'antisémitisme qui s'est instauré également depuis que ce que j'appelle ce mouvement de reniement, de ralliement en même temps au pouvoir politique, s'est institué. Il y a un chantage continuel, on ne peut pas dire à propos de soit Bernard-Henri Lévy ou Glucksmann, quoi que ce soit, qui soit de l'ordre de la critique,
sans qu'on reprenne l'antisémitisme. Oreilles, mais tu as parlé de son nez, c'est quand même pas rien, enfin, parler d'un nez, du nez pour
un nez aussi. Écoutez, je tiens vraiment à ce qu'on arrête sur ce terrain-là.
Voilà, on est en 1986, hein, ce document date de 1986, donc Guy Hockenheim. Réaction, François Cusset.
Ce que je trouve incroyable dans cet enregistrement, c'est que ça pourrait avoir été enregistré hier soir, littéralement. Le fait que quelqu'un arrive avec un livre critique, un véritable argument, et qu'on lui ressorte l'antisémitisme comme effectivement invalidant tout le livre, alors qu'il s'agit juste du nez de Glucksmann. Et puis surtout, la liste d'espèces de portraits robots de la génération qui fait avec tous ces noms, mais on... La totalité des noms qu'il mentionne sont des gens sur le devant de la scène. Donc, alors, il faut quand même préciser qu'Hockenheim, à l'époque, quand il sort ce bouquin, qui va avoir un certain succès, est extrêmement seul. Hein. Ce type de propos sur la restauration, la contre-révolution, a l'air, mais complètement surréaliste, même pas proto-marxiste, a l'air incompréhensible en 86. Donc, il est tellement seul qu'effectivement, on pense que c'est un antisémite, voire peut-être un homosexuel militant, puisque c'est ce qu'il a été. Bref, il est inaudible, moi, je pense, à cette époque-là. Le livre, pourtant, est beaucoup plus subtil que ça. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas uniquement l'accusation d'une génération. Il précise au début que la notion de génération est toujours liée à un échec, à une rancœur, à un ressentiment, que tout ça est plus compliqué que simplement une affaire de génération. Il y a une continuité. Il faut penser la continuité depuis l'époque où ils étaient leaders de mouvements gauchistes jusqu'à l'époque où ils sont sur les plateaux de télé. Cette continuité-là, c'est-à-dire comment peut-on rester le même ? Moi, c'est une des questions à laquelle j'ai essayé de répondre dans la décennie.
Serge Halimi, vous avez préfacé la réédition du bouquin de Hockenheim.
Bon, je l'ai préfacé parce que quand le livre est sorti, j'ai éprouvé, comme beaucoup de lecteurs, un sentiment de libération. Je me suis dit, tiens, enfin, quelqu'un ose dire ce que je perçois. Et ce sentiment de lire un ouvrage qui était précurseur, quand j'ai eu à le relire quelques années plus tard, j'ai fait la même observation naturellement que François Cusset, c'est que les cibles d'Hockenheim étaient toujours en place et que chez ces intellectuels ou ces hommes de médias où on ne cesse d'invoquer la nécessité du renouvellement, eh bien on y souscrit très peu lorsqu'il s'agit de soi-même. Et on a le sentiment effectivement que le temps s'est un peu arrêté et que sur les plateaux de télévision caquettent les mêmes personnages depuis maintenant près de 25 ans.
Frédéric ?
Moi, je suis sage, je fais l'économiste de service. Donc, je retiens de l'archive qu'on a écoutée l'idée qui s'applique parfaitement au domaine économique que la restauration commence à la fin des années Giscard. Et en effet, du point de vue de la politique économique, qui fait rupture ? C'est l'aimable professeur Barr qui va récuser tout le référentiel keynésien déclaré obsolète et qui va commencer à expérimenter des méthodes de politique économique qu'on va retrouver pendant les deux décennies qui suivent.
C'est pas mal de citer Raymond Barr, ça nous ramène à l'antisémitisme, et ça nous ramène à aujourd'hui.
Je crois que la restauration réelle des idées dans ce pays, elle a commencé à la fin de Giscard, et elle s'est faite de façon massive, à mon avis, sous Mitterrand et sous la gauche. Et ce que j'appelle la restauration, c'est le fait que tout ce qui avait été contesté, tout ce qui avait été nié, tout ce qui avait été provoqué d'une certaine manière par mai 68 et la suite, est redevenu, au contraire, un sujet de respect, de conformisme, d'agenouillement, à savoir le pouvoir d'État, le fric, l'armée, la bombe, l'économie en tant que sujet abstrait, comme ça, devant lequel on s'incline. Tout ce qui, d'une certaine manière, avait été rejeté par une adolescence utopique ou généreuse.
Et ce sont ces mêmes jeunes gens.
Et ce sont les mêmes qui ont fait les deux opérations, c'est-à-dire ce sont les mêmes qui ont fait mai 68 et les mêmes qui ont fait cette restauration idéologique.
Oui. Mais quand vive la crise, on avait utilisé la même archive. C'est-à-dire qu'on avait utilisé le même Hockenheim. À croire que personne d'autre qu'Hockenheim dans cette décennie avait vu juste. C'est pas possible, François Cusset.
C'est très difficile de trouver un autre son de cloche. Alors, cela dit, attention, il y a évidemment d'autres sons de cloche. La question est plutôt le fait qu'il soit inaudible. On trouve des textes fortement critiques. Moi, j'en ai trouvé pas mal du côté des grands intellectuels critiques. Donc, oui, il y a des voix critiques, mais elles sont non coordonnées, elles sont isolées, elles sont inaudibles.
Ouais. Quand on a dit c'est tous des renégats, on va un peu vite.
Non, d'abord, il y a le fait que la gauche est au pouvoir, qui crée un phénomène immédiat de solidarité obligée des intellectuels dits de gauche avec cette gauche de pouvoir, même si la critique. Ils doivent le faire discrètement parce que ce serait quand même cracher dans la soupe, qui voulaient cette gauche au pouvoir depuis longtemps. Voilà, ils sont pris entre l'impossibilité de la critiquer et puis le refus, par contre, de la soutenir explicitement. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On se tait, on parle d'autre chose. Il y a quand même ça qui change pas mal la donne. Et puis, il y a le fait que toute critique est vraiment diabolisée. C'est-à-dire que sur les plateaux de télé, dans les studios de radio, l'idée même d'avancer une critique d'envergure, ça veut dire, quelques années après le mouvement antitotalitaire, que vous êtes perché sur votre mirador, au-dessus de votre goulag. Vous êtes un garde-chiourme de Brejnev. Vous êtes un immonde personnage, si vous parlez même de critique sociale. C'est vraiment une période un peu hystérique. Ça va se calmer après. Il faut dire que c'est le pire, je pense, de la période.
Oui. Parce que, naturellement, la critique existe quand même dans les syndicats, à la CGT, dans une fraction de la CFDT. Je veux dire, on n'adhère pas du tout à ce discours de modernisation libérale. De la même manière, au plan politique, le Parti communiste ou à l'intérieur du Parti socialiste, Jean-Pierre Chevènement, ne sont pas résignés au virage de la rigueur depuis 1983. Mais, comme vient de le dire François Cusset, leurs propos sont complètement disqualifiés par le discours antitotalitaire qui assimile toute critique de l'ordre libéral et toute critique des États-Unis à une adhésion au modèle soviétique.
Le gong retentit pour le premier round et Rocky Balboa gagne le centre du ring.
Le russe pilonne l'américain.
Rocky est touché. Il a réveillé le faux endormi et il le fait. Une simple droite. Drago a envoyé Rocky Balboa à 5 mètres.
Le russe a envoyé Rocky Balboa valser dans son coin comme une poupée chiffon.
3 minutes qui ont été un sale quart d'heure pour Balboa. Car il doit affronter non seulement un boxeur apparemment imbattable, mais aussi affronter une foule très hostile, le secrétaire du Soviet suprême et les membres du Politburo qui le regardent.
Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. Would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too.
On va
commencer par ce qui s'est passé avant et qui est peut-être le moment déclenchant de cette période cauchemardesque, selon François Cusset, l'élection de Margaret Thatcher, le 4 mai 1979.
Le 10 Downing Street va de nouveau changer de locataire. Le dernier mandat de James Callaghan, c'est dans la place à un premier ministre doublé d'une maîtresse de maison.
La reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement. J'ai accepté. Très ému, Margaret Thatcher annonce sa nomination.
Charles Passepas disait il manque une Thatcher à la France, une Margaret Thatcher à la France. En quoi est-ce que ça augure et inaugure la décennie
Alors. Moi, je crois que ce qui est important dans l'élection de Margaret Thatcher, ce n'est pas que les conservateurs l'emportent au Royaume-Uni, parce qu'après tout, le balancement entre travaillistes et conservateurs avait caractérisé la vie britannique pendant des décennies. C'est que cette fois, c'est la victoire d'une droite qui veut mettre en œuvre une politique de droite. Quand elle arrive au pouvoir, en 1979, sa détermination est bien celle de rompre avec l'ordre social-démocrate ou keynésien qui avait caractérisé le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, elle le dit, je cite, « J'avais toujours été un conservateur d'instinct, mais je n'avais pas su transformer cette sensibilité en une grille d'idées cohérentes et en un ensemble de mesures concrètes de gouvernement. Plus vite, les illusions des hommes pratiques se désintégreraient dans le heurt de la réalité, plus la nécessité de développer une telle grille se ferait sentir. » En d'autres termes, les soubresauts sociaux que le Royaume-Uni connaît à la fin des années 70 convainquent une partie de la droite qu'il faut rompre avec des politiques centristes auxquelles il s'était accommodé pendant les années précédentes. Donc elle arrive au pouvoir avec une détermination de rupture, un peu comme Ronald Reagan un an plus tard aux États-Unis et un peu comme, mais dans un autre sens complet, François Mitterrand en 1981.
Frédéric ?
Il me semble qu'on a une transition assez similaire dans le cas du mouvement néolibéral français qui commence par une phase glandulaire biologique, hein, à base d'élan vital, de libération des énergies, etc., qui était particulièrement bien illustrée par l'émission Vive la crise, à une phase qui sera plus idéologique articulée. Alors un peu tardive, hein, parce que d'abord l'élan vital peine à se trouver les idées bien mises en forme, etc., il ne les a pas encore sous la main. Surtout que ce sont les socialistes, hein, leur référentiel intellectuel, c'est quand même pas ça immédiatement. Donc il va leur falloir un petit peu de temps pour découvrir tout ça. Et c'est le genre de transition qu'on va voir typiquement à l'œuvre, par exemple, dans le cas du tournant de politique économique. Au tout début, en 1983, ça a surtout les apparences d'une réaction à chaud, totalement désordonnée. On part les urgences comme elles viennent, on part au plus pressé, on évite la catastrophe. Puis, les socialistes vont avoir 2 ans pour se reposer du pouvoir, entre 86 et 88. Et alors c'est à ce moment-là que la gauche va s'armer, la gauche de gouvernement, la gauche sociale libérale, va s'armer idéologiquement et qu'on va voir les corpus doctrinaires se dessiner et se durcir.
François Cusset, Thatcher, le début du...
Oui, alors bon, rétrospectivement, ce qui se passe en 79 en Grande-Bretagne annonce ce qui va se passer en 83 en France, au sens où, en fonction des cultures politiques et sociales de ces deux pays, il y a en gros 2 façons de faire passer la même chose. Thatcher est résolue et va le faire à faire passer en force, effectivement, les politiques ultralibérales, anti-keynésiennes qui sont les siennes. On pourrait dire rétrospectivement que la stratégie des socialistes et de Mitterrand a été de la faire passer pédagogiquement, si je peux employer ce terme ironiquement, c'est-à-dire on essaye autre chose pendant un an et demi, quand vous aurez bien compris que ça marche pas, on changera de cap. Pédagogie mitterrandienne contre force thatcherienne.
Sauf que la gauche française était très critique envers Thatcher quand elle a été ensuite l'année suivante avec Reagan. Mais elle n'a pas été avec Mitterrand, enfin la gauche mitterrandienne en tout cas.
Bah, elle pouvait l'être effectivement au moment où cela a été élu, puisqu'on était en plein état de grâce, et même d'ailleurs en l'occurrence Mitterrand était encore loin d'être élu. Donc les polarités idéologiques étaient encore très fortes, hein, les ennemis étaient là, de l'autre côté de la Manche et de l'Atlantique. On sera beaucoup plus discret sur ces sujets à partir de 83-84.
Qui bien souvent est les mêmes, femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers, issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher.
« 5 novembre 1980, soir 3, élection de Ronald Reagan. Je pense qu'on va entendre la voix de Jean-Marie Cavada aussi.
Ronald Wilson Reagan. À 19h hier soir, la côte ouest n'avait pas encore fini de voter, mais à New York, la télévision donnait déjà le nom du vainqueur.
Qu'est-ce qui va changer pour nous, Européens, et surtout Français? C'est vraiment difficile à dire avec précision, car le candidat Reagan a été d'une prudence de Sioux.
Serge Alimi.
L'élection de Ronald Reagan, elle porte à la tête des États-Unis un président qui succède lui-même à un président conservateur. Car Jimmy Carter a beau être démocrate, c'est lui qui a lancé la déréglementation de l'économie, c'est lui qui a négligé les syndicats, c'est lui qui a nommé Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale pour conduire une politique ultra-monétariste, et enfin c'est lui qui a relancé les dépenses militaires. Sur cette base, on peut penser qu'il sera difficile de faire beaucoup plus à droite. Et naturellement, Ronald Reagan prouvera que ce qui a l'air difficile et réalisable.
François Cusset.
Oui, alors évidemment, c'est une étape historique dans la droitisation de la politique et de la politique économique mondiale, l'élection de Reagan. Je ne sais plus qui disait qu'il y avait ce bon mot qui résumait la décennie, justement, 80, en disant elle commence avec l'élection à la Maison-Blanche d'un très médiocre acteur américain et s'achève par l'élection à la présidence de la République tchèque d'un très bon dramaturge Václav Havel, ce qui était effectivement une façon de finir mieux que ça n'avait commencé.
Avec Lordon,
oui, il y a clairement un moment de transition à l'échelle du monde. C'est un choc de politique monétaire absolument sensationnel. C'était en 1979, Paul Volcker durcit la politique monétaire américaine avec pour intention de porter un coup final à la dynamique d'inflation qui traverse tous les états industriels depuis plus d'une dizaine d'années. Et qu'est-ce que ça signifie, cette politique monétaire ultra resserrée? Ça signifie... Fini les bêtises, désormais. L'inflation, qui, c'est bien connu, ne cesse de faire du mal à la rente. C'est terminé. Donc, ce tournant de politique monétaire qui est pris en 1979 est annonciateur d'une volonté politique délibérée de mettre un terme à tout ce qui est de l'ordre des processus inflationnistes et c'est finalement l'ouverture de l'époque des rentiers.
Je pense que cette élection va déterminer l'avenir immédiat de notre pays et assurément celui du monde.
On est toujours sans nouvelles de Waleza. Voici les dernières images que l'on ait du président de Solidarité. C'était vendredi dernier à Gdansk, au moment où il allait participer à la session du comité directeur. Cette session qui, en décidant d'un référendum sur la nature même du régime, a décidé le général Jaruzelski à prendre les choses en main.
Mais effectivement, ma candidature...
Vous avez pour vous expliquer.
Oui, je sais, c'est l'endroit où vous parlez vite pour qu'on n'ait pas le temps de parler, mais je vais m'habituer parce que j'ai déjà vu l'émission. Ma candidature est très sérieuse dans la mesure où j'ai plus de chances d'avoir des voix que les autres candidats qui se présentent, quoi, tout simplement.
J'ai voté Mitterrand sans regret, sincèrement. C'est la première fois que je vois Paris comme ça. C'est pas mai 68 et c'est pas une victoire de Giscard. On a envie de penser, enfin, moi j'ai pas connu mon Paris de 36, enfin, aux vieilles images, aux vieilles chansons populaires, à la vraie fête.
Interrogez-vous sur la signification politique profonde. La peine de mort, qu'est-ce en termes politiques? Sinon, précisément, quand on le voit pratiquer dans toute la dictature, le droit de vie, mais le droit de mort, surtout que s'arroge l'État à l'encontre de ses sujets. Il ne s'agit pas, dans cette situation du monde, d'une simple coïncidence, mais d'une corrélation. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen ou du sujet jusqu'à lui retirer la vie. Interrogez-vous!
Attention, le premier TGV 607 en provenance de Paris est annoncé.
TGV, très grande vitesse, TGV. Dans votre bouquin, François Cusset, je rappelle le titre, La décennie, le grand cauchemar des années 80, vous restez quand même dans la sphère française.
Ce qui m'a intéressé, c'est quand même le paradoxe français. C'est qu'effectivement, pour un résultat idéologique assez similaire, enfin le passage en force d'idées libérales au plan économique et conservatrices au plan culturel, la méthode a été quasiment inverse, puisque face à Thatcher et Reagan, on a une gauche d'abord très populaire, en plein état de grâce, qui ensuite le sera moins, et face au mouvement ultra-réactionnaire de America is back et des blancs mâles au pouvoir aux États-Unis, on a le gauchisme culturel, la subversion actuelle, Libération, Canal+. Donc on semble suivre un chemin inverse. Ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment, par ce chemin inverse, on arrive à des résultats pas très différents.
20h, voilà l'estimation. 20h, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sofresse, je vous en prie, non, les gens qui vous regardent aimeraient regarder tranquillement et je vous en remercie. 51,7%, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner l'information brute.
Humble militant pénétré d'idéal, qui dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. À tous, je dois, et l'honneur, et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent. Je ne distingue pas entre eux, ils sont notre peuple et rien d'autre. Je n'aurai pas d'autre ambition que de justifier leur confiance. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Des centaines de millions d'hommes sur la Terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle.
Voilà la déclaration de François Mitterrand à l'hôtel du Vieux-Morvan. On est le 10 mai 1981. Nous avons tant à faire ensemble, dit-il. Serge Halimi ?
Oui, il y a deux choses à noter. La première, c'est que jusqu'en 1981, la gauche arrive au pouvoir grâce à des fractures de l'histoire. Le Front populaire, la résistance... Elle réforme beaucoup, elle dure peu, et elle impose de longues périodes de veille aux humbles militants pénétrés d'idéal qu'évoque François Mitterrand le soir de son élection. Ces militants qui espèrent en général tenir assez longtemps pour être encore debout un jour de juin 36 ou de mai 68. À partir de mai 1981, les choses vont changer. Parce que à partir de 1980 et de la normalisation libérale, l'alternance va se banaliser. Souvenons-nous, en 1980, l'élection de François Mitterrand, c'est la fuite des capitaux, l'effondrement de la bourse, qui perd 20% en quelques jours. Et lorsque François Mitterrand est réélu 7 ans plus tard, rien de pareil ne se produit. Il n'y a pas de chute des capitaux et la bourse même salue la réélection du président socialiste. L'autre dimension qui est importante, c'est que quand François Mitterrand est élu, jamais dans l'histoire, la gauche n'a été aussi puissante. C'est la première fois qu'elle contrôle à la fois la présidence de la République et une présidence de la République renforcée par les institutions de la Ve République, qu'elle va disposer d'une majorité parlementaire, qu'elle dispose d'instruments économiques et monétaires considérables du fait des nationalisations qui sont intervenues à partir de 1946 à la Libération. Donc c'est une gauche très puissante qui arrive au pouvoir, qui a été écartée des responsabilités pendant 23 ans, qui naturellement a un certain nombre de demandes, de réformes, et qui va avoir l'intention de les mettre en œuvre très vite, et d'autant plus vite, on l'a su plus tard, que François Mitterrand redoutait, du fait de son cancer, de ne pas rester en vie très longtemps.
Frédéric Lordon, en quoi consiste finalement le corps de doctrine en matière de politique économique des socialistes quand ils arrivent au pouvoir? On pourrait dire, pour faire simple, deux choses. Premièrement, une politique de relance qui a aussi des bonnes propriétés de redistribution sociale. Deuxièmement, les nationalisations. Alors, il faut traiter ces deux choses différemment. La politique de relance, c'est sans doute là qu'était le point d'obsolescence véritable du référentiel économique de la gauche. On peut l'en excuser parce qu'il faut garder en mémoire qu'on sort d'une période de 30 ans pendant laquelle le référentiel keynésien s'est avéré d'une efficacité absolument remarquable. Par conséquent, il n'est pas totalement irrationnel lorsqu'une crise survient dont on ne sait pas encore qu'elle est d'une nature un petit peu différente, il n'est pas totalement irrationnel de conserver encore un temps le référentiel en question, simplement, ne serait-ce que pour le temps de l'apprentissage, et de ne pas le bazarder aux orties immédiatement. En revanche, les nationalisations, c'est un petit peu autre chose, parce qu'évidemment, il est facile, avec le recul du temps, de crier haro sur le baudet, mais il faut tout de même bien voir que l'appareil productif, l'appareil industriel français, dont héritent les socialistes, je dis hérite entre guillemets, puisqu'il est aux mains des capitalistes privés, cet appareil industriel est dans un état lamentable. Sans la nationalisation, on sait pertinemment qu'il y a un certain nombre d'entreprises privées dans lesquelles l'actionnariat n'a pas fait son devoir et qui va aller à la ruine. Par conséquent, les socialistes arrivent et en nationalisant, ils remettent à flot un certain nombre de boîtes qui étaient vouées à la casse, Rhône-Poulenc en particulier, etc. Mais la grande erreur des socialistes, c'est de ne pas avoir été capable de concevoir une justification économique ou politique de la nationalisation passé le temps de la remise à flot. Et c'est la raison pour laquelle le tournant s'effectuera en 1984 quand Laurent Fabius assignera aux patrons d'entreprises publiques pour seule mission de faire, comme les entreprises privées, du profit.
François Cusset.
Il y a une euphorie générale, c'est pour ça que c'est un moment très particulier qu'il est très difficile de réévoquer, parce que les deux commentaires fort judicieux qu'on vient d'entendre relisent le 10 mai 81 à l'aune de 83, de 88. On n'en est pas là, on n'est pas dans la normalisation libérale, on est dans un moment très particulier. On est dans un pays qui est effectivement 74% à gauche, donc vraiment, voilà, une situation inédite et qui n'aura pas de lendemain. Et en même temps, à écouter précisément les mots de Mitterrand, il ne s'agit que d'unité nationale, d'unité patriotique, de communauté réconciliée, discours presque gaullien sur le thème effacement des polarités idéologiques, qui révèle quoi ? Qui révèle que le seul et unique but de la gauche qui arrive au pouvoir, c'est de durer. Elle n'est jamais restée au pouvoir plus de 2 ans dans l'histoire politique française. Et alors, que ça explique ou pas les tournants qui auront lieu ensuite, fort dommageable, en tout cas, c'est son seul but, et c'est bien ce qu'on entend, je trouve, dans le ton de Mitterrand ce soir-là.
On sait que ça peut être autrement.
Sans chômage, sans déprime.
On sait qu'il existe autre chose.
Un chemin différent.
On sait qu'on peut vivre autrement. Alors, qu'est-ce qu'on attend ?
Oui, on veut que ça change maintenant. Mitterrand président, allons, c'est le moment. Mitterrand président, oui, on veut vivre maintenant. Mitterrand président, oui, on veut vivre.
Ensemble, nous allons réveiller la France. Tous ensemble, on va gagner la différence. Tous ensemble, on peut aller très loin.
Mitterrand président, oui, on décide ici.
C'était La Décennie, le cauchemar des années 80, une nouvelle diffusion d'une émission préparée par Renaud Lambert. Merci à François Cusset, Serge Halimi et Frédéric Lordon. À lire La Décennie, le grand cauchemar des années 80, un livre de François Cusset publié aux éditions La Découverte. Le grand bond arrière, comment l'ordre libéral s'est imposé au monde, de Serge Halimi aux éditions Fayard. Et puis aussi le dernier livre de Frédéric Lordon, La malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique, aux éditions Les liens qui libèrent. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson et Julien Dumont. Cette émission a été réalisée par Franck Aderer, Guillaume Giraud et Yann Chouquet, préparée avec Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Et tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Au discours de l'impuissance, il n'existerait pas, il s'est fait sans moyens,
Il s'est fait envers et contre tout. Aujourd'hui, il existe, il sort en salle. On est dans 30 salles cette semaine et il commence à être diffusé à l'international. Et effectivement, c'est aussi un moyen de résistance, quoi. C'est un film de lutte. Donc je passe la parole à Patrick.
Et donc, vous êtes parmi les premiers ambassadeurs donc, de ce film. Et effectivement, on est dans un peu plus de 30 salles cette semaine et ça va continuer toute l'année. On a déjà programmé près de 200 débats jusqu'à la mi-juin un peu partout en France. Donc, on vous invite à rejoindre notre page Facebook, à relayer l'information et voilà, à faire passer le message. Le film à Paris est ici au Reflet Médicis cette semaine et la semaine prochaine, et on l'espère un peu plus. Il est également au 7 Parnassien. Donc voilà, on compte sur vous pour relayer tout ça. Très bonne soirée.
Vous êtes qui, vous ?
Moi, je suis Patrick, le distributeur du film.
Mais bonjour.
Bonjour.
Il n'y a pas de gens qui sont pour le gaz de schiste dans la salle ?
Bah si, sûrement qu'il y en a plein, mais ils ont quitté la salle avant
c'est
le débat. Non, on n'a pas eu de contradicteurs dans la salle ce soir.
C'est dommage, ça.
Ouais, bon, c'est dommage. Peut-être qu'ils étaient au match de foot. Il paraît qu'il y avait un match de foot.
Bonjour à tous et bienvenue au Reflet Médicis à Paris, où il y a un débat autour du film Nos Gazaranes, réalisé par Doris Butignol et Carole Mainduni. Excusez-moi.
Oui.
Madame Bateau, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ?
C'est l'histoire... du refus, je pense, du peuple français d'accepter ce que les compagnies pétrolières veulent nous forcer d'accepter, c'est-à-dire l'exploitation des gaz de schiste. Et c'est un film qui raconte bien ça, comment dans des villages, au point de départ, la population, les maires, les habitants se sont révoltés de tous âges, de toutes générations, contre la destruction de leur paysage, contre les risques que comporte la fracturation hydraulique et comment ils ont, à partir de là, mis fin à un système où tout était décidé dans le dos du peuple français, en fait.
Est-ce que dans le débat, il y avait des gens qui étaient pour le gaz de schiste ?
Là, ce soir, non, je pense pas.
Bah, c'est dommage, ça fait pas débat, alors. Tout le monde est d'accord.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une campagne de lobby permanente pour contester les raisons pour lesquelles on a décidé d'interdire les gaz de schiste en France. Pour faire croire que ce serait, je ne sais pas, pour des mauvaises raisons ou qu'on pourrait trouver d'autres techniques qui ne sont pas polluantes, ce qui n'est pas vrai. Voilà, mais le débat démocratique, il a eu lieu.
Quand vous dites que ce n'est pas vrai, on ne sait pas ce qu'on peut trouver.
Si, on sait. On sait pertinemment quels sont les produits chimiques utilisés dans la fracturation hydraulique. On connaît les risques de pollution des nappes phréatiques. On connaît les risques pour l'environnement et pour la santé. On connaît les risques sismiques en termes d'impact géologique. Tout ça, on le sait, ce sont des réalités scientifiques. Moi, vous voyez, je crois au progrès, donc je crois à la science. Et donc, je sais, on n'est pas dans un domaine où il y a une incertitude scientifique. Il y a des certitudes concernant les impacts irréversibles de l'exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique.
Mais si vous croyez au progrès, est-ce qu'on peut croire au progrès et se dire qu'un jour on va pouvoir fracturer sans polluer les nappes phréatiques?
Je pense pas que ce serait d'abord c'est quelque chose de qui est comparable, vous savez, quand l'industrie du tabac avait inventé la cigarette light pour faire croire qu'il y avait une nouvelle cigarette qui donnait pas le cancer, qui avait pas de goudron, pas de nicotine, et puis un jour on a été obligé jusqu'à interdire l'appellation cigarette light parce qu'en fait c'est aussi dangereux qu'une cigarette pas light. Ben, c'est un peu pareil pour la fracturation hydraulique, c'est-à-dire que les lobbies pétroliers ont inventé la notion de fracturation hydraulique propre. C'est une légende, ça n'existe pas, la fracturation hydraulique sans impact environnemental, ça n'existe pas tout simplement. Et puis, si on doit dépenser de l'argent public, puisque c'est ça le sujet, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas en rester au refus des gaz de schiste. Il faut une alternative en termes de politique énergétique. Donc, c'est l'enjeu de la transition énergétique. C'est l'enjeu de mettre le paquet sur le développement des énergies propres, des énergies du futur. Si on continue avec les énergies fossiles, on ne règle rien du problème du réchauffement climatique qu'on aggrave. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas se contenter de refuser les gaz de schiste. Il faut aussi choisir une alternative qui est la transition énergétique.
Je vous remercie. Et vous, Marc, qui avez produit le film, qu'est-ce qui vous a donné envie de produire un film comme ça, Nos Gazaranes ?
Au départ, on ne connaissait pas du tout le sujet, donc on était un peu naïf en se disant « mais on va trouver d'autres techniques, d'autres choses ». Et puis en creusant un peu, on s'est aperçu qu'on allait vers une saloperie avec un discours des pétroliers qui était bien rodé, qui était toujours le même et qui rabâchait par tous les politiques le même rapport.
On pourrait dire que le discours des écolos est le même aussi, c'est « attention, on va polluer les nappes phréatiques ».
Non, parce que ce qui se passe, c'est que dans les médias, à chaque fois, on vous met le grand communicant des pétroliers qui raconte toujours le même discours, et en face, on vous prend le Pékin moyen qui n'y connaît rien au problème du gaz de schiste et qui va devoir défendre ce problème-là. Alors que dès qu'on a interroge les grands spécialistes comme Picot ou autres qui connaissent bien le sujet, vous allez comprendre que c'est vraiment une grosse saloperie cette technique.
Est-ce que pour un film comme ça, vous avez eu les télévisions
Non, aucune télévision s'est engagée dans le projet. Arte avait déjà fait une soirée théma sur le gaz de schiste, donc ça a été doublement niet. Canal, on attend toujours. Et puis les chaînes publiques, pour l'instant, c'est pas du tout leur style et leur envie de programmer ce genre de film. Trop polémique, à mon avis.
Je vous remercie. Et si on veut en savoir plus, c'est pas compliqué. Il y a le film No Gazaran qui passe dans toutes les bonnes salles. Film de Doris Butignol et de Carole Menduni.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
France Inter, partenaire avec France 3 de l'exposition De Watteau à Fragonard, les fêtes galantes, au musée Jacques-Marandré à Paris, jusqu'au 21 juillet. Une soixantaine d'œuvres prêtées par de grands musées internationaux présentent l'évolution d'un genre développé en France par les peintres majeurs du XVIIIe siècle. Sous leurs pinceaux, belles dames et bergers amoureux s'épanouissent dans des décors champêtres où ils s'adonnent avec élégance à des jeux ou des confidences. Retrouvez l'exposition De Watteau à Fragonard, les fêtes galantes, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les infos, Estelle Schmitt, bonjour.
Bonjour, Vladimir Poutine recevrait de nombreux appels à l'aide depuis l'est de l'Ukraine et serait très inquiet de la situation. C'est le Kremlin qui l'annonce cet après-midi. Guerre des mots avant peut-être une guerre tout court. Dans plusieurs villes de l'est, des manifestants pro-russes se sont emparés de bâtiments publics. Cet après-midi, un commissariat de police de Gorlivka dans la province de Donetsk. À Slaviansk, l'un des chefs des insurgés a officiellement demandé l'aide de la Russie. Il est le seul pour le moment. L'Union européenne, de son côté, menace de nouvelles sanctions contre la Russie. Londres estime notamment que c'est le Kremlin qui tire les ficelles de cette agitation pour déstabiliser l'Ukraine. Il n'y a pas de place aux États-Unis pour la violence religieuse. Le président Obama réagit aux fusillades d'hier au Kansas. 3 personnes, dont un adolescent de 14 ans, sont mortes. Toutes les victimes sont de confession juive. Les attaques commises à la veille de la Pâque juive. Le tireur présumé, lui, serait lié au milieu antisémite et au Ku Klux Klan. La secte islamiste Boko Haram montrée du doigt après le double attentat de ce matin au Nigeria. Au moins 71 personnes sont mortes, 124 blessées dans des explosions près de la gare routière bondée d'Abuja. Aucune revendication pour le moment, mais Boko Haram est à l'origine de nombreuses attaques dans ce pays. Toujours cet homme à mi-image au Chili, de cendres, d'un immense nuage de fumée noire sur la ville portuaire de Valparaiso. Les pompiers ont du mal à venir à bout des flammes. 12 personnes sont mortes depuis ce week-end. Des milliers se retrouvent sans logement. En France, des tests ADN se poursuivent au lycée Fénelon Notre-Dame de La Rochelle. Tests sur 527 hommes, des élèves comme de personnel. Il s'agit d'identifier l'auteur du viol d'une lycéenne de 16 ans, septembre dernier. On ne connaîtra pas les résultats avant plusieurs semaines. La fin d'un des plus grands scandales sanitaires de ces dernières années se profile, l'affaire de la vache folle. Après 17 années d'enquête, le parquet de Paris requiert un non-lieu général dans ce dossier. 4 responsables d'usines d'aliments pour bovins étaient toujours mis en examen. La décision devrait être annoncée demain au comité central d'entreprise, mais les salariés de la Seita à Carquefou, près de Nantes, ne se font plus guère d'illusions. Leur site va fermer, information du Figaro. 327 salariés sont concernés. Au Parti Socialiste, à la veille de l'élection d'un nouveau secrétaire, David Assouline quitte le poste de porte-parole au nom d'un renouvellement nécessaire du PS, explique-t-il. Harlem désire entrer au gouvernement, sauf surprise, sera remplacé par Jean-Christophe Cambadélis. Le directeur sportif de Ferrari débarqué après 23 années de service, Stefano Domenicali, quitte l'écurie de Formule 1 de la Scuderia pour cause de résultats pas assez bons au championnat du monde.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Des sélections et des enregistrements de l'émission vont avoir lieu dans l'Aude aujourd'hui lundi, à Salelles-d'Aude à 19h. Et demain mardi, nous serons toujours dans l'Aude à La Grasse à 18h30. A très bientôt en public.
France Inter.
La voix est libre.
France Inter, 16h et bientôt 4 minutes, c'est Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Estelle Schmitt, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir et le très grand honneur de recevoir aujourd'hui Myung-Woon Chung, chef d'orchestre et pianiste. Bonjour Myung-Woon Chung.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous revoir. Après un beau voyage, vous êtes allé avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France en Russie. Ça a été un très très grand succès, un triomphe on peut dire maintenant. Et on va entendre, si vous voulez, un extrait. Vous vous souvenez évidemment avec émotion, je pense, de cette belle salle du conservatoire de Moscou qui est tellement riche de musique. Il y a eu tellement d'orchestres, de solistes qui ont joué là. Vous la connaissiez avant, bien sûr, je pense.
J'étais là il y a 40 ans exactement,
oui,
pour le concours Tchaïkovski.
Ah bah écoutez,
donc, c'était un retour après 40 ans.
Est-ce que ça a changé?
Je ne pense pas beaucoup, non, mais quand même, c'était drôle parce que à cette époque-là, il me semblait énorme. Maintenant, il me semble.
Et quand on grandit, on voit des salles de plus en plus grandes. Dans votre carrière, évidemment, vous voyez des endroits de plus en plus grands.
Mais l'acoustique, c'est merveilleux.
Il y a toujours le grand portrait de Tchaïkovski aussi. Il y a toujours. Ah bon, on est rassuré. Mais là, on va entendre Karl Maria von Weber, la conclusion de l'ouverture du Freischütz. C'était à Moscou, donc le 31 mars dernier. Conclusion de l'ouverture du Freischütz, qu'on pourrait traduire par le coup franc, le franc-tireur. Enfin bon, c'est une explication à donner. Des balles qui ont été trafiquées avec l'aide du diable, carrément, pour trouver l'amour. Donc, l'ouverture du Freischütz, dirigée par Myung-Woon Chung, ici présent, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Donc, un très beau voyage. Encore une fois, les formations musicales de Radio France sont en très belle santé, on le rappelle. Et tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, on fera un petit voyage plus court, mais il y a beaucoup de musique aussi à Deauville. Je vous parlerai du 18e festival de Pâques. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, Myung-Woon Chung, autour de ce micro, c'est votre disque de piano. Parce que bon, on sait que vous êtes pianiste, vous avez enregistré en trio, vous avez enregistré pas mal de choses aussi autrefois. Et là, c'est un disque que j'ai envie d'appeler des classiques favoris. C'est-à-dire, c'est des œuvres qu'on a dans l'oreille, qu'on aime beaucoup, que peut-être on a joué quand on était plus jeune. Et qu'est-ce qui vous a amené donc à enregistrer ces pièces absolument touchantes, merveilleuses et très connues finalement?
D'abord, c'était l'idée d'un de mes fils, mon deuxième fils. Et son idée, c'était parce qu'il travaille pour cette maison de disques ECM. Il pensait que peut-être faire quelque chose pour leurs enfants.
Oui.
Et c'est vrai que je dis souvent comment j'ai fait connaissance de cette musique. C'était parce que j'avais de la chance d'être né le sixième de sept enfants, et cinq avant moi avaient déjà commencé à jouer. Donc je suis sûr que j'avais écouté cette musique 9 mois avant d'être né.
Dans le ventre de maman, déjà, donc, ouais, comme, un avantage.
Comme musicien, je pense que quand même, apprendre une langue, c'est plutôt, c'est mieux. Donc,
plutôt, c'est le mieux.
Ce n'est pas un disque, disons, pianiste. C'est, C'est un disque une sorte de lettre musicale aux enfants.
Oui, une transmission aux enfants. Ben voici, puisqu'on a parlé de la maman, et des variations, 12 variations, on va entendre le début, des variations sur « À vous dirai-je maman », chanson populaire, mais ces variations ont été composées par Mozart.